Bonjour à toutes et à tous. Nous avons un service d'interprétation simultanée aujourd'hui. Je suis ravie de lancer cette réunion. Je souhaiterais tout d'abord remercier la présidente de l'Assemblée législative de la région de Madère. Un grand merci d'être parmi nous. Je remercie également la présence des députés de l'Assemblée de Madère qui sont parmi nous pour cette session d'ouverture. Et je remercie également les différents orateurs qui vont aborder les différentes thématiques analysées par cette commission parlementaire de l'Union pour la Méditerranée. Nous sommes dans la maison de la démocratie de notre région autonome. C'est une maison qui garantit notre démocratie et l'autonomie de la région de Madère. Il s'agit d'un bâtiment historique, un bâtiment qui a une grande importance pour la région autonome de Madère. Et je vais tout de suite donner la parole à notre présidente, Madame Rubina Leal. C'est une personne que j'estime beaucoup, que je connais depuis plusieurs années. Et je suis ravie que cette réunion de la commission de l'énergie, environnement, énergie et eau puisse se réaliser aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, tous les participants de cette réunion. Tout d'abord, je remercie et je félicite Monsieur le Président de la Commission de l'énergie, de l'environnement et de l'eau de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée. Je remercie également la présence de notre eurodéputé, Monsieur Cabral. Je remercie infiniment pour votre présence. Je félicite également et je remercie la présence du député de l'Assemblée de la République. Et je remercie également les représentants des différentes assemblées ici présents. Alors, bienvenue dans notre assemblée. Cette année est particulièrement importante pour nous parce que nous célébrons les 50 ans de notre démocratie. Et c'est un plaisir pour nous que de vous recevoir dans cet espace. C'est un espace qui est de production législative, de supervision de l'exécutif, mais c'est également un espace où nous exerçons la démocratie dans un monde particulièrement perturbé aujourd'hui. Où différents facteurs remettent en question cette valeur. Donc c'est un principe qui a été conquis par notre population et nous sommes aujourd'hui autonomes depuis 50 ans, mais voilà, je voulais souligner ce point. Je suis également ravie de recevoir cette commission et je félicite également le Portugal pour sa présidence de cette commission depuis septembre 2020 qui réaffirme notre engagement, l'engagement ferme de notre pays envers les défis que sont l'environnement, l'énergie et le climat. Ces défis sont particulièrement urgents pour la région euro-méditerranéenne et ce sont des défis qui sont de plus en plus mondiaux, interconnectés et urgents. Nous vivons à une époque où la pression sur les ressources naturelles, la perte de la biodiversité et les impacts du changement climatique exige des réponses politiques responsables, durables en matière de connaissances scientifiques et qui soient ancrées dans la coopération internationale. Autrement, donc, nous ne pouvons pas avoir, atteindre ces objectifs sans une bonne coopération internationale. Où nous nous engageons tous pour répondre à ces défis, où les efforts de certains pays seront très probablement vains. Je peux affirmer ici avec donc confiance que cette parcelle du territoire portugais, la région autonome de Madère, assume et s'engage en faveur de l'atteinte des objectifs et des cibles établis par les institutions nationales et internationales. Et dans ce contexte, je souhaite souligner que la région de Madère joue un rôle particulièrement important. Madère est en effet un espace géostratégique très particulier pour le Portugal, qui affirme donc clairement la dimension atlantique du Portugal. Nous sommes à la croisée des routes maritimes et aériennes. C'est une région qui constitue donc une véritable plateforme atlantique projetant le Portugal vers l'océan et renforçant sa centralité stratégique à la fois dans l'espace euro-atlantique que par rapport à ses liens naturels avec la Méditerranée. Et donc cette position nous donne des responsabilités accrues, mais il s'agit en même temps d'opportunités uniques, et notamment dans le domaine de l'environnement, dans le domaine scientifique et énergétique. Cet élément est très important pour notre région, mais notre région est beaucoup plus importante que de par son emplacement géostratégique. Il s'agit en effet d'un territoire qui constitue un pilier de notre identité régionale, de notre économie et de notre développement. Et donc, nous parlons d'une région qui héberge des écosystèmes uniques au monde. Et je souligne notamment la forêt Laurisilva de Madère, est inscrite au patrimoine mondial naturel de l'UNESCO. J'espère que certains d'entre vous ont eu l'occasion de visiter cette forêt si vous le faites, ceci permettra aux membres de cette commission d'établir un contact direct avec cette réalité vivante où nature, science et politique publique s'entrecroisent de manière exemplaire. Je souhaite également souligner que la région de Madère accueille la plus grande zone maritime protégée d'Europe et de l'Atlantique Nord, la réserve naturelle des îles Sauvages. Il s'agit d'un territoire protégé, un véritable sanctuaire de la vie sauvage, en particulier pour de la vie marine. Et il s'agit d'une référence internationale en matière de conservation de la nature et de protection des océans. Et c'est justement important à cet instant de souligner l'importance, le caractère central de l'océan pour Madère. L'océan constitue une partie essentielle de notre identité, de notre histoire et de notre projection stratégique. Donc la mer constitue un pilier fondamental de notre biodiversité, de notre économie et de notre avenir. La vaste zone économique exclusive sous la responsabilité portugaise, fortement marquée par la dimension atlantique de Madère, constitue un patrimoine naturel dont la valeur environnementale, scientifique et géopolitique est énorme. La protection des écosystèmes marins, la gestion durable des océans et la lutte contre la pollution des mers constituent pour nous des priorités absolues. Les zones marines protégées de la région, et particulièrement les îles sauvages, démontre qu'il est possible de préserver les océans tout en promouvant les connaissances scientifiques, la coopération internationale et le développement durable. Cette vision intégrée du territoire comprend également la gestion de l'eau, une ressource qui est la ressource la plus précieuse que nous possédons. Dans une région montagneuse dont les reliefs sont très marqués et qui est caractérisée également par une grande variabilité climatique, et donc vous pouvez le voir d'ailleurs aujourd'hui, l'eau a toujours exigé une grande planification, de l'ingéniosité et beaucoup de respect. Et l'un des exemples les plus notoires de cette capacité d'adaptation humaine à la nature sont les levadas de Madère, donc ces canaux d'irrigation qui constituent un système hydraulique historique et unique au monde, qui permet de capter, de transporter et de distribuer l'eau à travers l'île et de garantir l'agriculture, l'approvisionnement des populations et l'équilibre des écosystèmes. Ces levadas sont beaucoup plus que des infrastructures. Il s'agit d'un patrimoine culturel et environnemental et technologique qui illustre comment nos connaissances traditionnelles peuvent offrir des réponses durable et résiliente aux défis contemporains que pose la raréfaction des ressources hydrauliques. Dans le cas de l'île de Porto Santo, l'une des îles de notre archipel, la réalité a toujours été différente. Il s'agit d'une île où l'eau douce, l'eau potable, a toujours été un bien rare qui a beaucoup conditionné sa population et son développement économique. Et c'est cette limite qui a donné lieu à une solution innovante, la construction en 1980 de la première station de désalinisation du Portugal, un système d'osmose inverse qui existe encore aujourd'hui et qui nous permet d'approvisionner l'île en eau potable. Ce pari pionnier a permis d'atténuer un problème structurel et de garantir la sécurité hydrique à la population, tout en promouvant un développement plus équilibré sans compromettre les écosystèmes fragiles de l'île. Mesdames et messieurs, s'agissant de durabilité, je dois également aborder la question de l'énergie, l'un des piliers de cette commission. Notre région a fait également beaucoup d'efforts et a parié sur les énergies renouvelables en les exploitant de manière responsable. Cette stratégie est une approche qui vise la résilience, l'autonomie et qui constitue une vision pour l'avenir. Et la preuve de cela a été la grande coupure d'électricité qui a affecté tout le territoire continental portugais l'année dernière. Et Madère, grâce à son autosuffisance énergétique, n'a pas été impactée par cet événement. Et ceci démontre que la transition énergétique constitue également également une question, représente également une question de sécurité, de stabilité et de souveraineté. Réduire la dépendance aux combustibles fossiles, diminuer les émissions, protéger l'environnement et garantir l'autonomie énergétique ne sont pas des objectifs contradictoires. Il s'agit d'éléments qui font partie d'une même stratégie de développement durable et qui doivent coexister. Il est donc possible de concilier protection de l'environnement, développement économique et cohésion sociale, et même dans des territoires tels que le nôtre, des territoires insulaires, fragiles et particulièrement exposés aux effets du changement climatique. Dans un espace aussi divers qu'est la Méditerranée et de par son lien naturel avec l'Atlantique, cette commission joue un rôle déterminant dans la construction de politiques communes qui protègent la vie sauvage, qui donc lutte contre la dégradation des écosystèmes et assure un avenir durable pour les générations à venir. J'espère donc que cet espace nous permettra de renforcer le dialogue politique, la coopération scientifique et le partage de bonnes pratiques. Donc, j'espère que votre session sera donc une session fructueuse et qui nous permettra d'atteindre tous nos objectifs en faveur de nos territoires, de nos populations, de l'Europe et de la Méditerranée. Je vous remercie. Merci beaucoup. Chère présidente, pour votre message plein de sagesse et qui donc souligne les éléments que nous allons aborder, donc le lien entre l'Atlantique et la Méditerranée et également le rôle central que joue Madère. Et donc le thème de notre session porte donc sur la vie sauvage, l'atténuation de la dégradation des écosystèmes marins et terrestres. Donc Monsieur Nuno Cayol va prendre la parole tout à l'heure. Il est chercheur au Centre de la résilience du climat et au département de changement climatique du Centre technologique de Catalogne, donc c'est un Portugais. Nous aurons ensuite Madame Gergena Penca, chercheuse associée principale, directrice de l'Institut méditerranéen pour la recherche en environnement du Centre de recherche scientifique de Koper. Merci infiniment de votre présence. Et nous avons et également le docteur Petro Sepulveda, le directeur de l'action climatique et des services de durabilité de la Direction régionale de l'environnement et de la mer. Donc, Madame la Présidente, avant de commencer, je propose de faire une photo de groupe et surtout parce que notre collègue algérien devra partir plus tôt. Donc, j'aimerais que l'on profite de ce moment pour faire cette photo avec la présence également de notre présidente. Et je remercie la présence de Monsieur Mohamed Tavalbeira. La présence de l'Algérie, la présence du Maroc. Et les députés, Madame Fatima Yassan et l'Arabe Aylal, pour votre présence. De Chypre, Monsieur le député Averhof Neufesten, merci de votre présence. Du Monténégro, monsieur le député Gordon Stovic. De la Bulgarie, monsieur le député Kirill Dobres, à notre gauche. Pour la Turquie, monsieur Mustafa Wiken. Et Monsieur le Président de la Commission des affaires économiques, financières, sociales et éducation, ce Samir Ayrim. Les membres, les eurodéputés également, Madame Jadwiga Judnesca. Et M. Nascimento Cabral, qui est également présent. Donc voilà pour les membres de cette commission de l'énergie, de l'environnement et de l'eau. Et avant tout, je souhaite donc vous donner un petit cadeau de notre part.
Muito bem. É com grande
Alors, c'est avec forte satisfaction que nous commençons donc notre réunion de travail pour la Commission de l'énergie et de l'environnement. J'ai déjà présenté les membres de la Commission pour l'Assemblée parlementaire et c'est avec un grand plaisir que nous conduisons cette réunion ici à la région autonome de Madère, une région insulaire qui est très jolie par son paysage naturel. Nous avons eu l'occasion hier de visiter et de connaître également Lauri Silva, avec, qui est le patrimoine également de l'UNESCO. Alors, Lauri Silva, qui est l'engagement pour la conservation de la biodiversité, avec cette gouvernance également environnementale responsable, et tous les membres de la commission de l'environnement tiennent à cœur. Alors, dans l'océan Atlantique, dans la région de la Méditerranée, la Madère partage avec l'Atlantique les mêmes défis au niveau de la protection pour la vie sauvage, mais également de la protection des systèmes sauvages. Donc, la région a une expérience au niveau de la conservation de la nature, des différentes espèces maritimes, et on nous offre un contexte d'inspiration pour notre réunion. Alors, ce sera donc le thème pour aujourd'hui, donc la vie sauvage, la protection de la biodiversité et des écosystèmes. Nous avons un ordre du jour assez rempli et que vous avez tous reçu, donc c'est ma proposition, mais qui doit être approuvée donc, pour cette réunion. Et par conséquent, j'aimerais mettre à débat pour l'adoption de l'ordre du jour qui vous est proposé. Est-ce que quelqu'un a des objections? Alors, n'étant pas le cas, nous passons à l'adoption de l'ordre du jour. Ensuite, nous avons l'adoption également du procès-verbal de la réunion précédente qui a eu lieu au mois de novembre à la ville de Caire, en Égypte, et qui a été distribué à tous les membres. Donc, à l'entrée, vous trouverez donc ce procès-verbal si jamais vous n'avez pas reçu par mail. Donc, vous l'aurez également en version papier. Ensuite, je pense que nous pouvons également approuver donc le procès-verbal de la réunion précédente. Est-ce que c'est le cas? Avez-vous quelque chose à rajouter éventuellement? Ou des changements? Des modifications? Très bien. Donc, des abstentions? Des votes contre? Donc, le procès-verbal de la réunion précédente est par conséquent approuvé par unanimité. Nous avons trois spécialistes, hein, comme je le disais, des experts qui vont faire leur contribution. pour la protection de la vie sauvage, mais également pour l'atténuation également des systèmes terrestres et maritimes. Donc merci pour votre présence à tous les trois pour notre réunion. Nous aurons cette thématique, donc celle-ci. Ensuite, nous aurons une pause café suivie par les interventions des membres de la commission parlementaire. Et sur ce, je passe d'ores et déjà la parole à M. Nuno Caiola, qui est le chercheur portugais au Centre de la résilience du climat et au département de changement climatique pour le Centre technologique de Catalogne, Eurocat. Donc, merci d'être parmi nous. Et je vous passe la parole. Je ne sais pas si vous souhaitez vous déplacer peut-être vers l'avant. Voilà, je vous passe la parole.
Muito obrigado.
Merci, merci beaucoup. Tout d'abord, je souhaiterais remercier. Je ne sais pas si je dois conduire ma présentation en portugais ou en anglais, puisque nous avons le service d'interprétation. Alors, pour cette partie préliminaire, je souhaiterais remercier l'Assemblée parlementaire et cette commission. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir, un honneur de m'avoir invité pour expliquer mes différentes contributions en cette matière. Je vais vous parler de l'adaptation au changement climatique et également l'importance de la restauration environnementale, également pour l'adaptation et également le changement et l'atténuation pour les changements climatiques pour les côtes méditerranéennes. Avant de commencer, je remercie Eduardo Teixeira, Josefina et Katia. Vous avez été effectivement d'excellents éléments pour l'organisation de ceci, donc je vous en remercie. Alors voici le titre de ma présentation. Elle est en anglais, donc je pense que ce sera plus facile pour les membres de la commission de pouvoir la suivre. Donc je viens vous parler sur l'importance de la restauration des écosystèmes des côtes méditerranéennes et à quel point cette stratégie est importante pour pouvoir nous adapter à l'avenir. Ce sont les effets également des changements ou du changement climatique. Alors, cette décennie nous sommes en plein milieu de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. Une vision qui est partagée par plusieurs scientifiques, mais également ceux qui sont liés à la gestion. Si nous souhaitons travailler avec la nature et non pas contre la nature pour cette stratégie verte pour l'adaptation aux différents défis que nous avons devant nous, notamment le changement climatique et la perte de la biodiversité, si nous souhaitons travailler effectivement avec la nature, eh bien nous arrivons à cette conclusion. Nous n'avons pas des écosystèmes en bon état de santé pour pouvoir suivre cette stratégie. Et donc, ce qui est effectivement fondamental, c'est la restauration des écosystèmes. C'est la seule voie pour pouvoir avoir donc une surface qui soit suffisamment grande d'écosystèmes en bon état pour que ces mêmes écosystèmes puissent nous donner des services et nous aident à combattre également et nous adapter au changement climatique. C'est la raison pour laquelle les Nations Unies ont décidé de prendre en compte la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes avec tout un ensemble d'objectifs et de pouvoir les restaurer d'ici jusqu'à 2030. Alors, cette vision est également partagée par l'Union européenne. Donc, nous avons le Pacte vert, le Green Deal, qui fait partie de cette vision, à savoir ce besoin d'avoir une surface d'écosystème en bon état et voir comment est-ce que l'Union européenne qui a dédié donc toute une série de fonds pour la recherche dans ce domaine. Un des principaux outils également, ce sont également les programmes, le précédent donc T+D qui était l'horizon 2020 et le programme avec Horizon Europe. Je vais vous parler surtout d'un projet de l'horizon 2020, donc 2020, qui est donc le REST COAST, qui est l'acronyme pour le titre donc la restauration à grande échelle des écosystèmes côtiers grâce à la connectivité entre les rivières et la mer. Donc là, nous abordons le besoin de faire cette restauration environnementale, mais cette fois-ci à grande échelle. Alors, les objectifs de ce projet qui ont démarré donc il y a maintenant 5 ans et qui vont terminer donc au mois de mai de cette année. Mais l'objectif était effectivement de faire cette étude à grande échelle de la restauration des écosystèmes. Et nous l'avons fait tout en identifiant les barrières, mais également les bonnes pratiques. Donc ce sont effectivement les barrières, mais également les facilitateurs. Et nous l'avons fait au niveau technique, avec les aspects de la restauration des écosystèmes, donc des moyens techniques pour pouvoir restaurer les différents écosystèmes, mais également au niveau financier et au niveau de la gouvernance. Donc ce sont les trois piliers en fait importants pour ce projet. Là où nous essayons effectivement d'aborder cette matière. Et avec ces trois piliers, c'est d'essayer de voir quelle est la façon de pouvoir voir si ce travail développé est bien conduit ou pas. Et pour cela, nous avons développé tout un ensemble d'indicateurs pour voir si les services et la protection de l'environnement et des écosystèmes se fait de façon adéquate ou pas, avec cette même stratégie de restauration environnementale ou des écosystèmes. Nous travaillons sur plusieurs points de la côte ou des côtes européennes. Sur cette image, vous pouvez voir qu'il y a différents endroits pilotes sur la Méditerranée, notamment en Espagne, en France, deux en Italie et également dans la mer Noire. Et ensuite d'autres hors la Méditerranée, mais qui ont également leurs propres problèmes. Donc quand on voit cette carte et la façon comme nous avons distribué tous ces différents sites pour le développement de notre projet, la question qui se pose éventuellement, pourquoi la région de la Méditerranée est-elle sous-représentée, puisque nous avons sur 8, 5 font partie, ou 4 en tout cas, font partie donc de la Méditerranée plus la mer Noire. Et la réponse est très simple. C'est vrai que la Méditerranée est le point central climatique. Beaucoup de faits sur le changement climatique se passent dans la région de la Méditerranée. Et donc, c'est une région, la Méditerranée, qui est très vulnérable pour le changement climatique. Que ce soit au niveau de la température, mais aussi à d'autres aspects comme, par exemple, la hausse également de l'eau de mer, donc entre autres choses. Donc ici, on peut voir ce schéma, ce diagramme qui montre le sixième rapport de l'IPCC. Là, nous pouvons voir plusieurs régions de la Méditerranée. On voit quelles sont les observations de la température, les changements, mais les données également prévues. Et les tendances sont très claires, comme on peut voir. Ce n'est pas uniquement pour au niveau de la température, mais également au niveau de la précipitation et les événements extrêmes, donc les pluies. Avec la sécheresse prolongée. Et ensuite, comme on voit également toute la partie d'augmentation de l'eau, également des niveaux des océans. Et surtout quand on voit également les côtes plus vulnérables, comme par exemple les deltas. Moi-même, par exemple, je travaille pour le delta du Ebro. Nous avons ici des représentants d'autres deltas qui sont très importants également, comme par exemple le Nilo. Et ce sont effectivement des régions qui sont très très vulnérables pour ces effets, notamment pour tout ce qui est l'augmentation également à la hausse. Mais cela fait en sorte que certaines régions côtières soient effectivement très vulnérables à cet effet. À tout niveau, en fait, pas forcément au niveau uniquement écologique, la biodiversité, mais également au niveau économique et également le mode de vie des citoyens. Alors évidemment, nous avons des effets secondaires. La perte de certains écosystèmes qui sont très importants également, comme par exemple les zones humides, toute la partie côtière, qui sont très importantes également pour la biodiversité, pour les services des écosystèmes et qui nous aident à nous adapter également aux changements climatiques ou aux changements climatiques. Comme par exemple l'importance de ces écosystèmes pour pouvoir nous défendre des différentes tempêtes qui sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus sévères. Alors la protection qui est nécessaire n'est pas une protection verticale mais plutôt horizontale. De façon, lorsque ces tempêtes touchent effectivement les côtes, perdent cette énergie et avec des écosystèmes qui soient bien établis et bien conservés. Et ceci pourrait éventuellement nous aider à trouver ce genre de protection. Alors ici, on peut voir sur cette carte un article que nous avons également publié il y a quelques mois, l'année dernière. Et on voit effectivement le danger de 50% de perte de ces zones humides côtières méditerranéennes si nous ne travaillons pas là-dessus. Et donc la restauration ici est fondamentale. Alors l'objectif de ce projet, d'une certaine façon, est de pouvoir apporter un changement de paradigme. Et quand on voit le business as usual qui est le genre de stratégie ou d'approche avec cette protection rigide, donc avec toute la partie, également les parties grises, hein, avec les murs de protection artificielle ici sur la côte. Qui peuvent effectivement tenir en compte les symptômes, mais qui ne résout pas également cela. Donc ce n'est pas durable, c'est trop cher, parce que ces murs de protection requièrent effectivement une gestion très fréquente. Donc ce que nous essayons de faire avec ce projet, c'est de présenter des arguments scientifiques pour ce changement donc, de paradigme. Et ce n'est pas uniquement défendre la côte, mais travailler avec ces mêmes systèmes côtiers, prendre en compte les processus et voir à quel point ils sont importants pour pouvoir nous adapter à ces changements climatiques. Alors ici, on peut voir, on passe du protéger la ligne côtière et à gérer ce système dynamique. Il ne s'agit pas de contrôler la nature, mais plutôt de travailler et s'adapter à cette nouvelle réalité. Entre autres, donc, ce sont des paysages s'adapter, des paysages adaptatifs, des stratégies très fixes à une stratégie qui soit plus flexible et par conséquent plus durable à l'avenir et donc à futur proche ou même d'ici à la fin du siècle. Voilà, je ne sais pas combien de temps me reste-t-il. Je suis censé avoir une vingtaine de minutes. Alors voilà maintenant quelques exemples de ce que nous avons fait pour ce projet. Donc à gauche, ce n'est pas un endroit de la Méditerranée. C'est la mer de Vaden, donc aux Pays-Bas. Et les Pays-Bas essayent maintenant de faire ce démantèlement des digues et de travailler ces différents processus côtiers, pouvoir se mieux s'adapter en fait. Mais ce n'est pas uniquement cette adaptation, c'est de pouvoir atténuer également les effets, mitiger ces effets du changement climatique, parce que ces systèmes on porte une bonne santé, effectivement, écologique, sont très efficaces, notamment pour le carbone, avec cet excès de CO2 dans l'atmosphère, donc qui peuvent être très efficaces. Et du côté droit, on voit le travail qui a été conduit donc, pour le delta de Rhône, donc en France, et sur le Rhône. Et les collègues maintenant, le delta du Rhône, les collègues français qui travaillent maintenant pour la restauration passive. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit effectivement de promouvoir et faire en sorte que les processus écologiques puissent fonctionner par eux-mêmes et ensuite pour que la nature puisse également se générer par elle-même. Donc, ce type est très important dans des systèmes qui sont très dynamiques et très changeants également pour la partie côtière.
Alors, j'aimerais aussi attirer votre attention sur d'autres résultats que nous avons obtenus dans le cadre de ce projet. Nous avons notamment établi une base de données avec plus de 500 observations concernant des projets de restauration côtière. Et cette base de données est très importante parce que nous pouvons avoir accès à différents exemples de protection, de restauration et avoir accès également aux techniques utilisées, aux aspects liés à la question financière, à la gouvernance. Donc il s'agit d'un ensemble de bonnes pratiques. Donc nous pouvons voir celles qui ont bien fonctionné, celles qui ont moins bien fonctionné pour améliorer les stratégies. Cette base de données est publique. Il s'agit d'un projet européen. Donc, un projet payé par le contribuable. Et donc, les résultats sont très fiables. Normalement, en tant que chercheur, nous voulons être les premiers à publier les données, mais là, ce n'est pas le cas. Cette information est disponible à tous, pour tous, et pour que toute la communauté scientifique puisse les utiliser afin d'être, de concevoir des stratégies plus efficaces. Alors là, rapidement, vous pouvez voir les informations qui sont disponibles dans cette base de données, l'emplacement, bien entendu, le type d'écosystème ciblé, le type d'habitat, la biodiversité, les services écosystémiques, etc., le type de surveillance qui est réalisée dans le cadre de ce projet. Donc toute personne a accès à ces informations. Et à la fin de ce projet, dans quelques mois, cette base de données sera disponible sur le portail de la Commission européenne. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons développé tout un ensemble d'indicateurs, des indicateurs objectifs qui puissent être utilisés par tous de la même façon afin d'évaluer si certaines techniques de restauration côtière sont efficaces ou non en ce qui concerne la biodiversité, mais également certains services écosystémiques comme par exemple la régulation du climat et la question du stockage du carbone et la gestion des services écosystémiques liés aux côtes. Donc, toutes ces informations sont disponibles sur le portail de la Commission européenne et sont accessibles par tous. Alors là, je vais avancer, j'ai déjà parlé de cela et j'arrive à la fin de ma présentation et je voulais ici souligner que nous avons commencé un autre projet. Il s'agit d'un projet qui est dans la continuité de ce projet REST Coast et là on a la seconde partie, donc le projet Coastscapes. Et donc, il s'agit d'un projet européen nouveau qui assure le suivi du projet REST Coast. Et donc, nous allons non pas nous concentrer sur l'aspect technique de la restauration, mais plutôt sur la façon dont les écosystèmes restaurés peuvent nous aider à renforcer notre résilience. Et donc pour cela, nous allons développer plusieurs projets pilotes. Et une fois de plus, la Méditerranée est représentée avec la côte de Murcia en Espagne, mais également avec Venise et une fois de plus la mer Noire. Et nouveauté de ce projet, nous avons un certain nombre de sites pilotes qui sont des sites de démonstration, d'autres de réplication, donc pour essayer de transposer certaines techniques. Et puis nous avons aussi un des sites de transfert. Donc ces sites se trouvent au Maroc, mais également comme vous à l'extérieur de l'Europe, comme vous pouvez l'observer sur cette carte. Donc pour conclure, une fois de plus, c'est vraiment un plaisir et un honneur pour moi de partager certains des résultats du projet sur lequel nous travaillons. Vous avez tous mon email. Si vous voulez me contacter, n'hésitez pas à le faire. Et merci beaucoup pour tout. Et je vous souhaite une bonne fin de réunion. Merci beaucoup, monsieur le professeur Nuno. Alors, pour chaque intervention, donc je propose de faire une petite pause café entre chaque présentation. Et à la fin de la présentation, des présentations, je propose aussi une session de questions et réponses d'un maximum de 10 minutes. Et cette session, je propose de la faire juste après les présentations. Donc, si certains membres de la commission souhaitent poser des questions à M. Nuno Caiola, c'est le moment de le faire. Monsieur l'eurodéputé, notre eurodéputé de Madère, peut-être que vous pouvez commencer. Monsieur le député, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, je vais m'exprimer en portugais puisque nous sommes au Portugal, à Madère. Tout d'abord, je remercie le professeur pour sa présentation, la présentation de cette étude très importante. Donc, un travail qui a été réalisé au niveau de certains deltas de la Méditerranée et ailleurs. Donc, s'agit d'une approche nouvelle, donc c'est ce qui peut nous donner de l'espoir pour la protection des littoraux. C'est une nouvelle stratégie qui est proposée parce que normalement nous luttons contre le changement climatique, nous essayons de défendre nos côtes et nous savons que tôt ou tard ces côtes vont disparaître. Donc moi je viens des Açores et nous avons justement cette expérience. Tôt ou tard, la mer reprend ce que nous essayons de construire et effectivement, la situation des îles est spécifique et particulière par rapport à celle des côtes, mais c'est donc une approche différente pour gérer l'augmentation du niveau de la mer. Et il faut rappeler que cette augmentation du niveau de la mer est très préoccupante de par sa destruction, son impact sur la biodiversité. Donc on observe une destruction de la biodiversité, mais il y a aussi un impact sur les ports, l'activité du transport marin, et donc ceci va poser des problèmes en termes d'approvisionnement. Et donc nous devons nous adapter à travers la transition énergétique et différentes infrastructures pour faire face à l'augmentation du niveau de la mer. L'augmentation des températures est également une source d'inquiétude. Même si la Méditerranée ne représente qu'un 1% des mers au niveau mondial, c'est dans cet espace qu'on a une perte particulièrement significative de la biodiversité. Et en plus du travail qui est réalisé dans le cadre de cette étude, ce que j'aimerais souligner, c'est que de notre côté, au niveau européen, nous avons de grandes ambitions au niveau environnemental. Donc la question est la suivante. Quelles sont les mesures que nous pouvons prendre? Parce que, évidemment, nous sommes ambitieux en matière environnementale, mais nous ne pouvons pas nous permettre de perdre en compétitivité au niveau mondial, notamment par rapport à la Chine, qui est beaucoup moins ambitieuse au niveau environnemental. Donc, que pouvons-nous faire au niveau des institutions européennes et du Parlement européen et comment pouvons-nous coopérer comment notre délégation peut coopérer en tant que européen pour garantir une bonne stratégie de développement durable et de résilience face au changement climatique et pour gérer la question de l'eau. Et je pense qu'il y a de bons exemples déjà de coopération. Et notamment avec la Commission pour la bonne gestion des ressources marines de la Méditerranée, donc la Commission des pêches de la Méditerranée, la CGPM, GFCM en anglais. Alors, je pense que ça serait un bon exercice de répliquer ces exemples de coopération et les appliquer à d'autres domaines. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre question. C'est une question effectivement très pertinente, car trouver un équilibre entre les différentes actions que nous pouvons mener et tout en maintenant le mode de vie auquel nous sommes habitués est une question très importante. Et l'Union européenne développe différentes stratégies d'adaptation, mais donc il faut savoir qu'il y a certains processus ne pourront pas être stoppés. Et c'est pour cela que l'adaptation est très importante. Et nous sommes absolument alignés aux stratégies de l'Union européenne et au pacte vert. Et sur ce changement de paradigme, il s'agit de trouver des solutions plus durables, non seulement sur le plan environnemental, mais également sur le plan économique. Et donc, travailler avec la nature, ça coûte moins cher. Et donc, dans un futur proche, c'est aussi une approche qui est plus durable. Mais il y a aussi un autre aspect. Et nous travaillons à l'amélioration de la capacité de certains écosystèmes à stocker le carbone. Mais ceci n'est pas suffisant. L'atténuation du changement climatique à travers la réduction des émissions est indispensable. Et tout particulièrement dans les espaces, au niveau des espaces marins. Pourquoi ? Parce que même si du jour au lendemain, on met fin aux émissions et on passe à des émissions à un volume négatif, cela va peut-être avoir un impact sur la température des mers, mais les océans vont continuer la température des océans va continuer d'augmenter et les effets se feront sentir jusqu'à la fin de notre siècle. Cela dit, il faut quand même agir d'une manière ou d'une autre. Et l'Union européenne fait son devoir. Mais je pense qu'elle doit également faire preuve de courage par rapport à certains, vis-à-vis de certains de ses partenaires. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment indispensable. Réduire les émissions et tendre vers un niveau zéro d'émissions ou des émissions négatives. Ceci est indispensable si l'on veut maintenir notre mode de vie, en particulier au niveau des zones côtières. Et il faut savoir aussi que certaines zones côtières, et en particulier les deltas, il faut également ajouter les terrains qui sont sous terrain. Et donc le poids du terrain, donc ces terrains sableux, sablonneux, sont également à prendre en compte quand on parle d'augmentation du niveau de la mer. En fait, pour ces zones en particulier, on parle d'une augmentation annuelle d'un centimètre, alors que normalement, nous sommes à 5 millimètres par an. Et donc, si on peut arriver à 1 mètre en 2100, eh bien, on risque d'arriver à 1,5 mètre dans ces zones spécifiques. Et donc, là, ça serait vraiment très, très difficile. Donc, il faut faire preuve de courage. Merci beaucoup, Monsieur Nascimento de Cabral. Je donne à présent la parole à la délégation de Chypre. Monsieur Nefito. Alors, ça ne fait aucun doute. Tout individu, toute communauté, toute ville, toute nation, et y compris l'Europe, doit faire de son mieux pour protéger l'environnement. Mais nous devons aussi penser à notre efficacité en matière de protection des zones marines. Si la Chine ne suit pas les mêmes règles, si les États-Unis n'établit pas de politique pour protéger ces systèmes. Et nous avons l'Inde aussi, ses politiques en matière de fabrication. Donc je pense que l'Europe doit prendre l'initiative en faveur d'une politique internationale de protection de l'environnement. Alors, merci beaucoup et je suis entièrement d'accord avec vous. Mais tout d'abord, alors je vous rappelle que je suis chercheur, je suis un professeur, je ne suis pas politique et je n'ai aucune envie de le devenir. Cela dit, je l'ai mentionné dans ma réponse tout à l'heure, je pense qu'en tant qu'Européens, nous avons des opportunités à saisir et nous pouvons jouer le rôle de leader en matière d'adaptation et d'atténuation du changement climatique. Et non seulement au niveau environnemental, au niveau de la biodiversité, alors bien sûr ce sont des éléments fondamentaux, mais également en développant des politiques durables qui tiennent compte des besoins de la population, de son mode de vie, mais aussi de l'économie. Donc, il faut que l'on agisse, et c'est ce que l'on fait déjà. Et pour ce cas précis, je pense que l'Union européenne devrait montrer l'exemple. Merci beaucoup. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Dans ce cas, je vais donner la parole à notre invitée suivante. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Nuno. Je donne donc la parole à la directrice de l'Institut méditerranéen pour la recherche en environnement. Il s'agit d'une chercheuse associée principale donc au Centre de recherche scientifique de Koper. Donc je donne la parole à Madame Jerneja Penka. Et merci infiniment pour votre contribution. Nous vous donnerons 20 minutes et puis ensuite il y aura une session de questions et réponses et nous ferons une pause café. Alors, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis ravie d'être ici pour vous donc présenter donc les résultats de mon travail, mais également pour dialoguer avec vous. Donc moi, je suis chercheur sur les questions énergétiques et pour sur les, et environnementale, et la question de la, de la prise de décision politique est essentielle pour nous. Alors, j'ai été invitée pour parler de la question de la protection de la vie sauvage et, la, et donc le traitement de la dégradation terrestre et des écosystèmes marins dans la région méditerranéenne. Alors, je vais... donc, partir de la conclusion de l'orateur précédent, et je vais commencer par le concept de nature que j'ai mis en italique, et en disant que l'état de la nature est en déclin et la situation est très grave. Je vais parler de la gouvernance qui peut être efficace et du fait que nous avons besoin de gérer différents défis environnementaux et donc et des défis également d'ordre social et l'importance de traiter les causes profondes et le fait qu'il faut agir dès aujourd'hui. Alors, nous nous basons sur deux sur les travaux de deux panels importants, notamment l'IPBES, donc la plateforme intergouvernementale de biodiversité et des services écosystémiques, et puis la plateforme des experts méditerranéens sur le climat et le changement environnemental. Et donc, je vais me concentrer sur les deux rapports produits par ces institutions, donc, notamment le rapport sur les sur les causes profondes de la biodiversité, de la perte de biodiversité et le changement transformatif. Nécessaires, les options pour atteindre la vision 2050 pour la biodiversité. Et le deuxième rapport porte sur la connexion entre la biodiversité, l'eau, l'alimentation et la santé. Donc, ces deux rapports portent sur des sujets différents, mais le message général est très similaire. Et donc, j'ai essayé de faire une présentation très succincte parce que je sais que vous venez de milieux, de contextes très différents, donc de contextes culturels, géographiques différents. Donc, j'ai essayé de résumer les messages qui puissent être pertinents pour tous. Alors, donc nous avons besoin d'un changement transformatif qui risque d'être difficile, mais qui est possible. Donc, on parle donc de différents systèmes, changement climatique, eau, biodiversité, alimentation et santé. Donc, tous ces éléments sont connectés. Et on parle beaucoup de polycrise. Donc, on ne peut pas parler seulement de crise climatique, de crise de la biodiversité. Donc, toutes ces crises sont liées. Et puis, il y a aussi la question de la pollution, donc la pollution de l'air et de l'eau, que l'on connaît bien. Et donc, toutes ces crises sont également liées aux inégalités sociales et en termes d'accès, en termes d'avantages que l'on tire de la nature. Donc, voilà pour le premier message. Ces crises mondiales sont interconnectées. Et donc, le changement transformatif est nécessaire pour... trouver des solutions donc, pour entraver la perte de la biodiversité, le déclin de la nature et l'écroulement des fonctions clés des écosystèmes. Et donc ce que vous voyez à droite, justement, c'est que l'on essaye donc de stabiliser la situation, mais malheureusement, le statu quo se maintient. Donc ces deux rapports ont montré que si ces tendances se poursuivent, nous aurons des résultats négatifs substantiels sur la biodiversité, l'eau, l'alimentation et la santé, tout en exacerbant le changement climatique. Et donc les scénarios qui donnent la priorité à certains axes de ce système et qui laissent de côté d'autres éléments, font que donc certains aspects sont laissés de côté. Et ce qui est particulièrement irritant pour nous en tant que scientifiques, c'est que les gouvernements n'ont pas réussi à enrayer le déclin de la biodiversité. Et donc depuis plusieurs décennies, nous redoublons d'efforts, nous développons des accords multilatéraux, nous renforçons la participation, nous développons des connaissances scientifiques pour soutenir ces efforts. Il y a de plus en plus de publications qui sont réalisées, mais malgré cela, la biodiversité continue de décliner. Et donc, ce graphique que vous voyez à droite devrait vraiment être donc un signal d'alerte pour nous. Et donc, quand on parle de biodiversité, on a des facteurs directs et indirects de perte. Et donc, nous devons maintenant passer à une approche selon laquelle on se concentre sur les causes profondes plutôt. Et il y en a trois. Nous avons identifié tout d'abord la question de la déconnexion par rapport à la nature et la domination donc de la nature et des individus, la concentration des pouvoirs et des richesses et la priorité donnée au court terme et aux gains matériels et individuels. Et donc ces trois causes sous-jacentes ont été identifiées dans notre évaluation. Et donc c'est de cette manière que nous interagissons avec la nature et la façon également dont nous structurons nos sociétés. Et nous voyons que ce sont ces trois causes qui ont un impact sur notre biodiversité. Dominant views,
structures and practices. Ici, nous voyons les différentes perspectives, la façon comme nous pouvons voir quelles sont les causes sous-jacentes également, avec le déclin également au niveau de la nature, et les principes de transformation, de changement transformateur, à savoir l'équité et justice, le pluralisme et inclusion, relations respectueuses et réciproques entre l'homme et la nature, et l'apprentissage et actions adaptatives. Mais nous ne pouvons pas dire que tout doit changer. Nous comprenons bien qu'il y a des aspects importants avec donc les perspectives, les pratiques différentes. Et donc tout cela doit être renforcé. Et ici, je vous montre quelques exemples de la région méditerranéenne également, des pratiques qui sont alignées avec ces perspective, donc la production notamment ici au niveau des différentes populations également et avec tous les produits qui sont associés également à la région. Ensuite, la transformation, évidemment, cela veut dire que ce sont des changements qui doivent être durables et qui doivent être persistants pour notamment renforcer la partie du status quo. Et donc, cela est fait également pour pouvoir identifier quels sont ces différents défis. La question également de la relation avec la partie humaine, la partie économique, politique, les inégalités, également des politiques et au niveau des institutions. La consommation avec les différents modèles également qui sont liés au niveau de la technologie et également des systèmes d'innovation. Et là, nous pouvons parler des différentes barrières de façon plus détaillée, mais c'est juste un résumé de ce que nous pouvons voir dans ce rapport d'évaluation et également de la partie de la décision politique. Alors, je souhaiterais maintenant me concentrer davantage sur les stratégies qui ont quand même ce potentiel pour pouvoir avancer avec le changement transformateur. Et ces cinq stratégies clés sont également associées à d'autres pratiques. Donc, cette évaluation qui essaye de voir de la partie opérationnelle, mais également des résultats plus tangibles. Alors, passons à la première stratégie. Il s'agit de la conservation qui implique une gestion durable, notamment par les communautés autochtones et locales, lorsqu'elle est inclusive, dotée de ressources suffisantes, axées sur les lieux à forte valeur pour la nature et les populations. Ensuite, la stratégie numéro 2, transformer en profondeur des secteurs. Il s'agit des stratégies que nous devons effectivement analyser pour les secteurs qui contribuent fortement à la perte de la biodiversité, notamment l'agriculture, l'élevage, la pêche, la sylviculture, les infrastructures et l'exploitation minière et l'énergie fossile. Pour ce qui est de la stratégie numéro 3, donc transformer les paradigmes économiques et financiers pour donner la priorité à la nature, mais également à l'égalité sociale. Et ici, ces chiffres sont importants puisqu'ils nous montrent que plus de la moitié du PIB, qui est également lié, est fortement dépendant de la nature. Avec les différents secteurs qui sont liés également de façon plus élargie. Mais nous investissons dans la nature qui est une toute petite proportion par rapport au reste. Et ici, j'aimerais également élaborer davantage, et un peu plus tard si vous le souhaitez, mais peut-être rebondir sur cette question et de pouvoir ouvrir le débat que nous avons commencé sur savoir comment est-ce que l'Europe peut faire davantage pour donc participer également à cela. Ensuite, pour ce qui est de la stratégie 4, utiliser ces systèmes de gouvernance inclusive, responsable et adaptative pour faire en sorte également pour répondre aux différents défis de la part de décideurs politiques. Et la dernière stratégie, ce sont des changements qui peuvent être facilités par des récits culturels et d'autres. Et donc, ceci peut être fait donc, au niveau des changements des récits culturels par la modification des normes sociales dominantes en facilitant les processus d'apprentissage transformateur, etc. Alors, pour les résultats positifs qui ont été observés en moins de 10 ans, nous avons un ensemble de 400 cas. Donc, il y a une base de données qui a été créée pour ces résultats. Nous avons fait l'analyse de cette base de données et des efforts maintenant qui apparaissent dans différents contextes de petite échelle, large échelle, avec les politiques, mais également des initiatives de la base vers le haut. Et certains de ces résultats que je peux partager avec vous, c'est que les résultats positifs ont été mis en exergue. Donc, les résultats montrent peut-être à moyen terme. Et les résultats et les bénéfices dans différents contextes des indicateurs que vous pouvez voir ici. Alors, la transformation est fondamentale. Nous savons que nous avons besoin d'une approche des différents gouvernements, mais également le changement transformateur qui concerne l'ensemble du système, que ce soit du secteur privé, public, la partie académique. Tous les acteurs ont un rôle important à jouer ici. Alors, que ce soit à petite échelle ou à grande échelle, qui peuvent contribuer à ces transformations profondes pour un monde plus juste et durable, lorsqu'ils s'attaquent aux causes profondes de la perte de la biodiversité et du déclin de la nature. Et il y a également différents groupes d'acteurs. Et ce que nous avons remarqué, c'est que ce n'est pas uniquement le plus important, ce n'est pas ce groupe d'acteurs, c'est plutôt la collaboration qui existe avec ces différents groupes et qui conduisent à de meilleures performances et de meilleurs résultats. Alors, un élément important lui aussi, donc le partage de la vision positive de l'avenir, donc pour pouvoir avoir un effet plus stimulant pour prendre des décisions au niveau des décisions politiques. Et ici, je vous ai mis donc les différentes opportunités, notamment pour les gouvernements, pour pouvoir avancer avec ce changement transformateur et comment est-ce que ces opportunités, ces facilitateurs se concentrent également sur la cohérence politique et également les différents règlements pour bénéficier de la nature, mais également pour avoir tout un ensemble de plans, de parties également des réformes fiscales et des outils également au niveau fiscal. Cela est lié également pour répondre et pouvoir également avoir des différents des réformes également au niveau environnemental et pour promouvoir la coopération internationale comme cette réunion d'aujourd'hui et pouvoir donc lier la partie du secteur privé et public pour ce genre d'initiatives. Les mouvements sociaux jouent un rôle important également. Ils peuvent être vus un peu partout dans le monde, mais beaucoup d'initiatives de la société civile et des défenseurs également qui font face encore à des problèmes. Donc ce sont également des problèmes de tension qui sont encore très souvent oubliés. Nous avons besoin également d'une intervention plus accrue pour ce groupe d'acteurs. Alors pour rebondir sur ces interactions, nous voyons que ce sont des réponses qui sont également faites par séquence, donc pour le bénéficier ce groupe plus élargi. Ici, nous pouvons voir les différentes mesures de protection et également cela pourrait apporter davantage de bénéfices également pour les sous-systèmes. Alors évidemment que ces réponses sont toujours orientées par rapport à ce que les gouvernements se sont mis d'accord pour les objectifs durables, mais également pour le reste, les ODD et d'autres, avec cet engagement international qui est très important aussi. Ici, les différentes options de réponse qui peuvent être vues également dans le rapport d'évaluation. Je ne vais pas donc vous envahir avec toutes ces informations à ce stade, mais plutôt résumer quelles sont les évaluations faites. Je pense qu'ils nous ont donné effectivement aux décideurs politiques avec les meilleures preuves pour ce changement transformateur, avec les connexions liées dans les différents systèmes. Ces évaluations nous donnent une orientation pour les systèmes économiques, financiers et de gouvernance et comment celle-ci doit être conduite. Ces rapports d'évaluation reconnaissent également le rôle des différents acteurs pour faire face aux changements et à ces crises mondiales avec des décisions intégrées et des actions pour soutenir donc l'agenda également du développement durable. Voilà, ce sont maintenant quelques leçons clés, ces messages clés et surtout, j'aimerais vous passer la parole maintenant pour avoir un petit débat avec vous et voir quel est votre rôle pour garantir également une justice durable avec vos différents décideurs politiques. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là, mais je suis à votre disposition pour rebondir sur les différents points. Merci.
Muito obrigado, doutora. Fantástica intervenção.
Merci, merci pour cette intervention qui est très importante également pour notre action politique dans les différents États et les pays. Voilà, maintenant les questions de la part de l'Assemblée, si vous souhaitez en poser ou éventuellement compléter certaines idées de Madame Penka. Turquie, le Monténégro, la Bulgarie, l'Algérie, je pense que Velzouch, vous avez la parole. J'aimerais féliciter le président de l'Union méditerranéenne. Un plaisir de vous recevoir ici dans la région autonome de Madère et moi en tant que député élu pour l'Assemblée également du Parti social-démocrate. Donc c'est un plaisir de pouvoir suivre ces différents domaines en tant que membre adjoint également avec comme experte pour la partie de l'environnement et de l'énergie. Je remercie notre oratrice. Vous avez mentionné des points fondamentaux. Parce que quand on parle de la biodiversité ou de l'environnement avec la partie maritime et la faune, cela veut dire le développement également de la partie de la souveraineté, la partie environnementale, les différentes générations et comme vous l'avez bien souligné, la coopération internationale. Alors l'UE a déjà compris l'importance de ce thème donc, pour l'action politique. Nous avons donc le pacte vert avec la stratégie de la biodiversité pour 2030, pour le réseau Natura et avec les politiques intégrées pour les océans, la pêche soutenue mais également durable pour la protection maritime. Et c'est un ensemble de politiques basées sur ce principe. Donc nous ne pouvons pas avoir une économie forte sans des écosystèmes sains ou cette transition climatique sans une politique de la biodiversité. Donc le Portugal en tant que pays maritime également avec la plus grande surface de côte, donc encore une responsabilité accrue pour la protection des écosystèmes également terrestres. Et il s'agit d'une opportunité de parler de la partie scientifique, géopolitique qui doit être prise en compte de la part des pays et de ces régions. Alors ma question, comment évaluez-vous donc l'efficacité de ces stratégies régionales et également internationales pour la protection de la biodiversité des océans? Et nous avons parlé également des changements climatiques, nous avons parlé également du réchauffement, de la hausse également l'augmentation de l'eau, etc. La sécheresse de plus en plus forte et qui accélère la façon comme nous envisageons les politiques plutôt structurées. Est-ce que vous pouvez peut-être nous montrer quelles sont, pour nous ici à la région autonome de Madère, quelles sont les vulnérabilités ou éventuellement les régions périphériques et insulaires? Qu'est-ce que nous devons prendre en compte pour la protection de la biodiversité et également pour pouvoir combattre le changement climatique? Merci, Madame Souche. Et nous souhaiterons également vous féliciter pour votre élection également. Et je passe maintenant la parole à Monsieur Nascimento. Plutôt du Parlement turc maintenant. Membre également de la délégation parlementaire pour la Turquie, Monsieur Mustafa. En fait, j'aimerais me prononcer après la pause café, mais quoi qu'il en soit, je souhaiterais féliciter également les experts que nous avons écoutés jusqu'à présent. ce fut effectivement une approche ou des approches très enrichissantes. J'aimerais maintenant suggérer au professeur Nuno Caiola. En fait, vous pourrez éventuellement devenir un homme politique à l'avenir, parce que, à moins que nous ayons effectivement la partie politique, il est vrai que le rôle des chercheurs se perdra. Moi-même, je suis enseignant et un chercheur. Chaque publication et évidemment les chercheurs qui doivent travailler, donc faire ces publications pour mettre en œuvre ces différentes politiques pour la protection de la biodiversité et également de la vie maritime. Et évidemment, ces politiques perdront leur effet. Donc, peut-être pourriez-vous penser également sur la voie politique à l'avenir. Donc, merci, merci. Et plus tard, je vais également parler ou me prononcer après la pause. Merci beaucoup. Oui, après, donc ce sera la dernière intervention maintenant de Monsieur Pedro Sepulveda de la région autonome de Madère également. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vois que le Parlement européen lève la main. Donc, Monsieur Nascimento Cabral. Merci, Monsieur le Président. Alors, juste une question très rapide. J'ai écouté très attentivement cette présentation et je pense que cela montre bien la critique que nous faisons de façon mondiale. Donc, je comprends bien ce que vous dites, mais d'une part, mais d'autre part, vous dire que au niveau de l'Union européenne, nous faisons face à de nombreux problèmes avec la vice-présidence également, avec d'autres membres de l'équipe également qui sont engagés de façon très accrue pour l'agenda du Pacte vert qui nous semble très importante et très ambitieuse. Mais nous avons remarqué qu'il payait des différentes ONG justement pour transmettre son message plutôt que de trouver cette solution. Donc cette partie de l'instrumentalisation également des ONG, etc., est fondamentale ici. Je pense que nous avons été trop loin. Cela n'a aucun sens par rapport à ce que nous faisons. Nous payons aux ONG, nous sommes en train de financer ces ONG juste pour transmettre juste un message de la Commission. Et ça, ce n'est pas acceptable du tout. Alors, lorsque je vous écoutais sur les mouvements de la société civile et prendre tout cela en compte, je suis d'accord avec vous, mais sans cette partie de l'instrumentalisation, pour ainsi dire. Donc, vous avez tout à fait raison quand vous dites que nous ne sommes pas encore reliés dans nos actions. On voit que, par exemple, l'allure qui représente 7% du total du résultat global, donc avec les effets de faire donc avec ces gaz également d'effet de serre, et donc l'orateur qui cherche l'acronyme en anglais, donc 75%, et nous avons effectivement des politiques qui sont très ambitieuses un peu partout dans le monde. Et cela pose un problème, comme vous le comprenez. Donc, cela crée et met en exergue également cette partie de la diversité, même au niveau de la société. Mais la difficulté pour développer ces politiques, notamment pour les parties plus vulnérables, qui sont toujours mises à l'écart avec ces mesures que nous avons conduites. Donc, nous parlons, par exemple, des différents fossiles des combustibles. Mais maintenant, on voit que c'est une période donc on ne leur donne pas la possibilité de se préparer à cette. Mais ce fonds était censé les aider, mais entre-temps, les choses ont changé, notamment au niveau de la Commission également, et pour ces fonds. Donc, quand on parle de la réindustrialisation également, de la partie également de l'UE, nous avons perdu notre industrie, nous avons déplacé cela dans d'autres pays qui ne répondent pas aux exigences au niveau de leur économie. Donc, ce sont beaucoup de pressions sur nos sociétés, nos économies, et évidemment, cela crée encore davantage de problèmes, des positions extrêmes dans différentes classes sociales. Je pense que nous devons travailler là-dessus pour pouvoir obtenir effectivement un développement durable, mais celui-ci doit être fondé également sur ces trois piliers. L'environnement, donc la durabilité évidemment, mais également la partie économique et sociale. Parce que si nous nous concentrons uniquement sur un seul de ces piliers, eh bien je pense que cette recette ne marchera pas. Et encore une fois, nous aurons donc des populations contre nos politiques puisqu'elles ne comprennent pas la valeur ajoutée de cela. Donc merci pour votre présentation, pour votre message très fort. Mais je pense que le message ici est de savoir comment nous devons nous engager et engager d'autres partenaires au niveau mondial, de pouvoir donc parler sur ces différents modèles et à la fois essayer de voir si les mesures que nous avons en ce moment sont alignées et compatibles également avec les autres pays. Donc apporter leur propre message, mais nous ne pouvons pas continuer avec ce processus. Autrement, nous allons perdre la capacité de nos économies de pouvoir réagir, les sociétés qui vont devenir de plus pauvres, et vous aurez des groupes qui seront encore moins développés et donc également mis à écart. Voilà. Merci, Monsieur Nascimento Cabral. Je vous passe maintenant la parole pour répondre aux questions. Merci. Je souhaiterais également remercier vos perspectives, donc avec vos commentaires. Nous réitérons effectivement l'importance de l'agenda environnemental. Je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais nous comprenons que cela a un impact sur les économies. Vous l'avez bien souligné dans vos interventions. Ce sont des choses que j'écoute également dans mon contexte. Dans nos domaines, en portant nos connaissances, nous nous disons, que peut-on encore faire? Plutôt une position schizophrénique avec toutes ces recommandations, quand on voit qu'aucune, en fait, n'est respectée ou éventuellement mise en action. Et la gouvernance environnementale, elle aussi, avec toutes ces ambitions de plus en plus importantes, pour découvrir après que celles de base n'ont même pas été encore accomplies. Il est important d'accepter cette vérité. Ça, c'est le premier pas. Et également pour vérifier les faits. Peut-être établir des ambitions, peut-être, ou des points moins ambitieux, et voir comment est-ce que cet agenda transformatrice peut être établi. Deuxièmement, à partir de la liste que je viens de vous présenter, la liste de stratégies, il y en a une que nous ne portons pas une attention en tant que société, mais également pour ce genre de réunion, là où les décideurs politiques se rejoignent. Donc l'application également de ces subventions qui ont un impact également sur l'environnement. Je sais que c'est un thème qui est très difficile quand on voit donc cette première étape. Mais c'est quelque chose sur laquelle nous devons également nous engager avant même d'avancer avec d'autres ambitions dans d'autres domaines. Donc, en tant qu'également européen, mais également et d'autres parties de l'UE, nous essayons toujours de défendre notre agenda environnemental, nos différentes politiques environnementales. Mais je pense que nous pouvons également penser sur la voie que nous suivons, essayer de voir quelles sont les différentes mesures que nous pouvons également réduire avant même d'établir de nouveaux objectifs. Voilà, je dirais que c'est le point de départ pour ce débat. Un débat, évidemment, qui est dans les mains dans d'autres personnes, pas forcément dans les miennes. Mais nous pourrons toujours approfondir ces questions plus tard, si vous le souhaitez.
Muito obrigado, doutor.
Merci beaucoup, Madame Penka. Merci pour votre contribution. Cela nous fait réfléchir. Voilà, je propose maintenant une pause café pour éviter donc également d'avoir la pause déjeuner tout de suite après. Alors, nous aurons M. Sepulveda qui présentera après la pause. Une pause de 10 minutes, hein. Vraiment 10 minutes. Une pause offerte également par l'Assemblée législative de la région autonome de Madère. À tout de suite alors.